Bonjour à tous, c'est Alex. Beaucoup d'entre vous me connaissent peut-être déjà, car j'ai cofondé le Biorec, dernier restaurant certifié bio du Finistère et situé au centre-ville de Brest. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est pour le lancement de cette toute nouvelle émission sur Radio U. C'est qui le patron ? Je vous propose de partir avec moi découvrir des commerçants et des entrepreneurs de la ville, mais surtout de nous intéresser à l'histoire qui se cache derrière la façade, car bien souvent rien n'est laissé au hasard. Des épreuves de la vie au choix de l'installation sur la métropole océane, nous nous plongerons dans un échange passionnant pendant une heure, toutes les deux semaines. Et pour ouvrir le bal, nous prenons la direction de l'hypercentre. Nous remontons la rue Jean Jaurès et nous rencontrons Charlène, qui a repris une boutique bien connue de ses habitants, mais plus question de l'appeler Rêve de Mer. Maintenant, c'est Oma.
C'est qui le patron ?
J'ai décidé d'entreprendre pour être libre et indépendante. Première erreur.
C'est moi, le patron !
C'est une sacrée aventure.
Bonjour Charlène, comment ça va ?
Eh ben écoute, ça va très très bien.
Ça va, Oma Boutique, du coup, je précise.
Oma Boutique, tout à fait.
T'as déjà fait de la radio ?
Jamais, c'est la première fois.
Première expérience, ouais. On va pouvoir revenir un peu sur ton histoire, ton parcours pour ce premier épisode. Est-ce que tu te rappelles de la première fois qu'on s'est vu ?
La première fois qu'on s'est vu. La première fois que je t'ai vu, en tout cas, c'est quand j'étais venue manger chez toi au Biorec, quand tu étais encore... dans l'ancienne rue.
Tout à fait.
Et j'avais adoré ce que j'avais mangé, j'avais adoré la rencontre également. Et après, quelques mois après, tu as déménagé et on a gardé contact.
Ouais, j'étais repassé aussi avec ma maman à l'époque,
exact,
dans ta boutique.
Tout à fait.
Et t'avais faim et t'étais partie te chercher à manger. Un goûter, je crois.
Un goûter. J'ai très souvent faim, d'ailleurs.
Ouais, ouais. Ben, ça, c'est la même chose pour moi. On va commencer par parler un peu de tes débuts. Tu es né à Brest, t'as pas beaucoup bougé en fait, sur ta vie hein, évidemment, mais en termes actuels on va dire, t'es pas très loin de là où tu es né.
Je suis née à Saint-Martin, j'ai grandi à Saint-Martin, mes parents ont vécu là, donc c'est vrai que je me suis réinstallée dans mon quartier d'origine.
Là aujourd'hui, toi t'as ta boutique, mais tes parents ont un peu eu cette histoire là aussi d'avoir leurs entreprises, je mets leur avec un S.
Oui, mes parents commerçants.
Commerçant aussi.
Plusieurs business, dès qu'ils fonctionnent pas, mais toujours l'envie de faire des choses. Et je pense qu'ils ont, me donné cette envie, en tout cas, de.
C'est un peu infusé quand même.
Ouais, tout à fait.
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me dis, si mon resto marche pas, j'ai l'impression d'avoir été tellement épuisé. Enfin, j'imagine, parce que c'est pas le cas, j'ai pas l'intention d'arrêter demain, tu vois, mais je me dis, si c'était le cas. Je ne me verrais pas reprendre immédiatement, me relancer dans l'entrepreneuriat et retrouver cette instabilité, en fait. Moi, les gens qui arrêtent, qui échouent et qui recommencent et qui n'abandonnent pas, je trouve ça complètement fascinant comme truc.
Ouais, je suis d'accord. J'aime bien ce côté. Je pense que pour le moment, dans la vie dans laquelle je me trouve, même si ça venait à tomber à l'eau, ce projet-là, j'en referais d'autres, c'est sûr.
T'aurais, ouais.
Ouais, peut-être pas quelque chose qui va durer vraiment dans le temps, passer un certain âge, j'espère aspirer à faire d'autres choses.
Sous une autre forme, peut-être.
Ouais, complètement changer de profession même. Mais pour le moment, c'est vital en moi de venir créer et de ne pas être sous la gouverne.
Je crois que c'est ça, en fait, le truc aujourd'hui. Même être avec des collègues qu'on choisit pas forcément... En fait, les gens qui se plaignent aujourd'hui, qui sont salariés et qui ont un travail, en général, quand ils se plaignent, c'est pas forcément du travail en lui-même, c'est plus des gens qui sont autour,
qui
en fait.
Hein, donc, tout à fait. Ouais.
Nous, c'est vrai qu'on est plus ou moins épargnés un peu de ce côté-là. On a tout le reste des problèmes, mais on n'a pas ça, tu vois.
C'est vraiment ça, le gros point d'être patron aujourd'hui, finalement, c'est de venir créer ses libertés, certes avec plein de contraintes autour, mais ses libertés en termes de temps, en tant qu'équipe aussi qui nous entoure. Et pour moi, ça a été l'un des trucs les plus motivants de me lancer cette autonomie. Quoi.
Quel sentiment, du coup, tu gardes de ton enfance
Vis-à-vis de leur boulot à eux, de leur profession?
Pas forcément, mais vis-à-vis de cette vie à Saint-Martin.
Moi, j'aimais bien ce côté être en plein centre, dans un quartier populaire, où ça bouge, où on connaissait tout le monde, que ce soit les commerçants, justement, les barmen, tout le monde me connaissait. J'étais la petite... passé là, il y avait un côté entre un village et en même temps la grande ville finalement. Et Saint-Martin, ça m'a toujours plu. Mes petites sœurs, qui ont 7 ans de moins que moi, après étaient à l'école aussi à Saint-Martin. Donc on a continué à vraiment vivre le quartier. Et j'ai toujours trouvé ça agréable, même si pendant un moment je m'en suis détachée, j'y suis revenue.
Tu te souviens de ce que tu voulais faire comme métier ?
Je crois que je voulais être avocate, je voulais être...
Ah oui, donc on était
vraiment loin.
Bon level, quoi.
J'ai voulu faire plein de choses, architecte, archéologue, princesse.
Et maintenant, c'est qui le patron ?
T'as un parcours scolaire un petit peu atypique.
Tout à fait.
C'est toi qui le dis, parce qu'au final, aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment un parcours scolaire type ? Je ne sais pas.
Plus ou moins, peut-être un
petit
peu. Mais
t'as essayé de faire pas mal de choses.
Ouais.
Tu peux nous en parler un petit peu ?
J'étais pas très scolaire, on va dire... Dès l'arrivée au collège, rester assise toute la journée à écouter.
C'est dur, hein ?
Oh là là. Et du coup, je décrochais au bout du deuxième trimestre à chaque fois. C'était le premier trimestre. Plein de motivation, plein d'envie de bien faire, de prendre les notes, de faire les devoirs le soir et tout. En fait, au bout d'un moment, non, plus envie du tout. Donc les notes chutaient et puis avec les professeurs, ça ne se passait pas très très bien, même si le comportement était bon. Voilà, ça ne suivait pas. Donc on m'a gentiment... demander d'aller chercher
autre chose.
La cinquième.
Il y a des choses pour vous, madame. Voilà. Voilà. Là-bas, au fond.
Allez là-bas, allez voir ailleurs. Et avec ma mère, on a pris, on a pris les dispositions. On est allé chercher d'autres écoles. Pour le coup, à l'époque, j'étais très contrariée de ce choix-là, d'être un petit peu marginale. Je sortais de Charles de Foucault.
C'était pas ton choix, quoi.
Non, c'était pas mon choix. Je voulais être comme les autres au collège, quoi. Et du coup, je suis partie dans une MFR, maison familiale et rurale, à l'époque que je voyais d'un mauvais œil, mais au final, maintenant que je valorise et j'en fais la promotion, c'est génial. Il y avait ce système de 2 semaines d'école, 2 semaines de stage, ce qui m'a permis finalement, sur une année entière, de ne pas me lasser d'être assise devant un professeur qui veut juste nous en mettre plein le cerveau. Là, il y avait cette coupure et...
Ouais, puis c'était professionnalisant, c'est peut-être un peu plus valorisant aussi, où tu commences à voir un peu où tu vas, quoi, parce que c'est vrai que...
Je me suis épanouie à être en face de professionnels, en face de patrons qui attendaient de moi, qui étaient satisfaits, et là, enfin, je voyais une satisfaction, chose que je ne ressentais pas quand j'étais spécialement que en cours.
T'as testé plusieurs milieux professionnels différents ?
Plein. Sur 2 ans, donc en 4e et 3e, toujours collège, là, j'ai fait un nombre de stages incalculable. Peintre, coiffeur.
Ah ouais ?
Ouais, cuisine.
C'était Martin Matin, tous les matins.
Tous les matins,
en se levant, t'avais un boulot différent, quoi.
Voilà. Je mettais une nouvelle petite casquette et... Mais j'ai adoré ça. J'ai adoré faire ça.
Mais genre, le fait de découvrir plusieurs trucs ou le fait que tous les boulots que tu faisais te plaisaient plus ou moins quand même ?
Tous les boulots ne me plaisaient pas.
T'as pas eu de gros trucs où tu te disais, moi, jamais dans ma vie, je ferais ça ?
Si. S'il y a des choses où je me suis dit, c'est pas pour moi. Tant mieux s'il y en a que ça leur plaît, mais moi, c'est pas pour moi. Mais j'ai aimé me dire que ce n'était pas pour moi et qu'on évinçait finalement cette possibilité de choix professionnel pour ma vie plus tard. Et finalement, l'entonnoir a mené à mes études que j'ai fait en vente commerce. Et voilà, grâce à tous ces choix-là, tous ces stages-là, j'ai pu trouver ma voie.
T'as fait un bac pro commerce, du coup ?
J'ai fait un bac pro commerce, tout
comme
à
moi.
Fait.
Comme moi. Ok. Suivi d'un BTS.
Ok.
Comme moi.
Tout pareil.
Tu vois.
Tu l'as fait où ?
Je l'ai fait à l'ESVEN.
Ok, c'est vrai que l'ESVEN fait ça aussi.
Ouais. C'était, on va le dire, assez cassos quand même.
Ok.
Mais très bon souvenir de bac pro. Okay. Moi, je faisais de l'animalerie, tu vois, à l'époque.
Ok.
Donc, j'aurai l'occasion d'en parler dans un épisode aussi.
On écoutera évidemment. Ah bah, grand plaisir.
J'espère que vous écouterez. J'espère que les gens écouteront ton épisode aussi. Tu as fait un bac pro, du coup, donc commerce. Il y avait des stages avec aussi et tu t'es du coup centrée sur la vente plutôt ?
Là, il n'y avait pas le choix parce qu'à partir de la seconde du coup du bac pro, réforme qui venait de passer à 3 ans de bac, c'était spécialisé vente-commerce. Donc, on était obligé de trouver des stages dans la vente. Je pouvais toujours faire 2 semaines de stage à droite, puis une autre entreprise. Il fallait juste que je valide 8 semaines de stage dans la même entreprise pour avoir le droit de passer le bac. Donc là, pour le coup, j'en ai fait plein aussi. Hein. De la grande surface, en veux-tu, en voilà, des Leclerc, des Carrefour et autres. Mais également des choses un petit peu plus cool, comme du Yves Rocher, Etam, Eram. C'est là où je me suis dit, ok, c'est vraiment le contact client qui me plaît.
Ouais.
Être en boutique, prendre soin des rayons, parler avec les gens sur leurs besoins.
C'est un travail assez divers aussi, en fait, que ce soit la caisse, la mise en rayon, le contact client, t'amener à faire un peu plein de choses.
Tout à fait.
On s'ennuie pas forcément beaucoup.
Je trouvais ça beau, je trouvais ça gratifiant. D'être, ouais, vraiment, c'est le souvenir que j'en ai.
Je trouve ça marrant que tu dises gratifiant, parce que des stages que j'ai dont j'ai souvenir, le stagiaire, il est vraiment tout en bas à se taper tout le sale boulot en soi. Tous les trucs que les autres ne veulent pas faire, les petites tâches qui sont sans responsabilité. Et que toi, tu as eu cette vision de gratifiant, je trouve ça vraiment surprenant et c'est super.
Je pense
c'est peut-être tombé sur des bons patrons aussi.
Ouais. Bah, en tout cas, quand c'était dans des commerces de fringues ou autres, là, j'aimais bien ma place. Parce que ça soit en face du patron ou en face du client, c'est vrai que je m'y sentais bien. Et j'avais tellement de stage que je pense que j'avais comme un prisme assez large de la diversification de tous ces métiers-là. Et je savais que j'étais, entre guillemets, juste stagiaire. Je faisais mon taf, je partais. Et il y avait des gens, c'était leur métier, qu'ils étaient payés là-dessus et qu'ils allaient revenir le lendemain. Et tout.
Après, donc à la fin de tes études, tu as commencé à travailler donc, dans le prêt-à-porter.
Dans le prêt-à-porter.
Tu t'es rapproché de un peu de ton boulot d'aujourd'hui, on va dire.
Tout à fait.
Et... tu as travaillé donc chez Jack & Jones, peut les citer.
Tout à fait.
Et tu es devenue manager de la boutique.
Ouais.
C'était la boutique de Brest ?
C'était la boutique du centre-ville de Brest, tout à fait. Première expérience dans le prêt-à-porter pour hommes que j'ai adoré. Donc je suis rentrée là-bas en CDI 24 heures et au bout de 3 ans, j'aimais tellement cette corporate.
Avec les responsabilités qui vont derrière aussi.
Avec tout, bien sûr. Et... c'était très gratifiant de travailler là-bas. Donc, je me suis donné les moyens et j'ai fini par être manager de la boutique à 23 ans.
23 ans, c'est jeune, hein ?
C'est très jeune. Mais j'ai tellement appris pendant ce moment-là. Et c'est grâce à eux, je pense, aujourd'hui, que j'ai eu cette envie d'être patronne. Je n'aurais pas eu les capacités, sinon le bagage.
Ouais, bah après... dans les grandes franchises, tu apprends aussi une gestion assez rigoureuse. Et je pense que c'est important après quand tu veux toi-même faire les choses, au moins tu as une bonne base.
Tu donnes beaucoup, mais tu apprends beaucoup. Ouais.
Et après, tu as arrêté du coup ?
T'as quitté ton travail ? Après, la boutique, elle a fermé.
Ah oui ?
Elle a fermé, je crois, en 2017, si ma mémoire est bonne. Et du coup, je me suis retrouvée un peu waouh, qu'est-ce que je fais maintenant ?
Tu as fait de la restauration ?
Et du coup, j'ai fait de la restauration. C'était le moyen un petit peu pratique. Moi, j'en avais déjà eu fait avant, des événements comme Brest 2012 et compagnie. Mais là, c'était le moyen facile pour moi de choper des petits CDD, d'avoir au moins des sous, histoire de profiter de ma vie, de payer mon loyer et autres, et de pouvoir aussi bouger à travers la France assez facilement. Donc, de mêler le voyage et le travail. J'ai fait Paris pendant un moment.
Ouais.
Je suis partie aussi un peu sur Bordeaux, j'ai regardé un peu à droite, à gauche, à Nantes. Des fois, je faisais que 2 semaines de contrat.
Et après, tu rebougeais ?
Et puis après, je rebougeais, je revenais chez maman, j'avais rendu mon appart et autres. Et j'avais la chance d'avoir une petite chambre chez ma mère et du coup d'avoir cette liberté aussi de pouvoir revenir assez facilement quand l'envie me prenait.
Pour te motiver le matin ou en d'autres circonstances, tu m'as dit « 7 Days » de Craig David. Et on l'écoute tout de suite.
For the time, I said a cost of a name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No, didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. What was the deal? A pretty girl is 24. So is she keen? She could wait. Cinnamon queen, let me update. What did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. Some stuff, but about a moment for tomorrow. For a drink on Tuesday, we were making love.
Tuesday. We were making love on Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday.
Not one time, cause I begin mine, and she was looking fine. Small talker, she told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way she kicked it, from the front to the back she flipped it. And I, oh, I, yeah, hope that you care, cause I'm a man who'll always be there. I'm not a man to play around, baby, cause the one night stand isn't really fair. From the first impression, girl, you don't seem to be like that. Cause there's no need to check, but there'll be plenty of time for that. From the subway to my home, and it's ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me
Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday. Took her for a drink on Tuesday.
On arrive maintenant dans cette troisième partie où on va pouvoir parler du coup de la reprise de ta boutique où tu as d'abord travaillé à mi-temps en CDD, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. J'ai commencé en CDD là-bas un petit peu comme ça, histoire d'avoir un taf. Toujours dans la poursuite de... je chope des CDD à droite, à gauche. Je bossais avant en Caudalie et j'en avais un peu...
Chez Martine.
Oh là là, des crevettes à l'ail de chez Martine quand même, quoi.
Ouais.
Mais bon, là j'en avais un petit peu marre de bosser le soir, donc je regarde et puis là je vois dans une vitrine, cherche mi-temps en CDD. Parfait, c'est ce qu'il me faut, quoi. Je lève la tête, je vois marqué Rêve de mer. Je me dis, rue Jean Jaurès. Ok, j'avais jamais vu cette boutique, mais pourquoi pas. Du coup, quelques jours après, je repasse avec un CV. Et puis, une semaine après, j'ai le coup de fil. Ok, c'est bon, viens, t'es prise, tu peux commencer. Ok, très
t'as
bien.
T'as pas eu d'entretien d'embauche ?
Si, plus ou moins. Mais je pense que mon
c'était
CV, tu vois...
Ouais, c'était assez complet.
Mon CV était tellement complet que c'est vrai que j'ai jamais réellement passé un entretien d'embauche. Quoi. Pour le coup, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu angoissée de me dire, mais les années passent et je n'ai toujours pas passé d'entretien d'embauche. Quoi.
C'est vrai. Tu veux qu'on en fasse un maintenant ?
Allez, let's go. Possible pour qu'elle passe là. Je commence là-bas et assez vite, je suis mise au courant que, pourquoi pas, le fond est à racheter. Ok, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. À ce moment-là, j'avais commencé à faire de la peinture, du coup j'avais déjà un compte auteur-artiste, j'étais un petit peu déjà dans la démarche de devenir autonome financièrement. Mais bon...
Tu avais déjà un peu le cheminement d'indépendance qui arrivait et...
Mais depuis très longtemps, hein, parce qu'à chaque fois, entre chaque job... Je suis passée à la CCI pour savoir comment on monte tel projet. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais rien de vraiment concret.
Et qui puisse te permettre de vraiment te poser et gagner ta vie.
Gagner
ça,
ma
quoi.
Vie et d'organiser mon temps. C'était vraiment ça, moi, mon truc. Avant de gagner ma vie, c'était d'organiser mon temps.
D'accord.
Ouais. D'être maître de ce temps-là, autonome, quoi. Donc voilà, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Et puis, je lui demande ses bilans comptables, tac, tac, tac. Et puis, je regarde un petit peu, je retourne à la CCI, évidemment, mes meilleurs amis. Et j'ai un rendez-vous, je leur montre un petit peu voilà, les bilans comptables. Ils me guident sur quelle démarche je vais devoir faire. Et je suis amenée à rencontrer, du coup, France Actif, qui me chapeaute un petit peu dans ce nouveau projet. Et du coup, ça devient tout de suite un petit peu plus concret.
France Active, je pense que c'est quelque chose qu'on va réentendre assez souvent. C'est une association qui aide les entreprises à démarrer en leur proposant notamment des prêts à taux zéro pour qu'ils puissent avoir un petit bagage supplémentaire pour défendre leur projet auprès des banques notamment.
Mmh, tout
voilà,
à fait.
Pour expliquer un petit peu. Voilà. Et tu sais si tu étais seule à l'époque sur la reprise du projet ou s'il y avait déjà eu d'autres touches, d'autres personnes ?
Pour l'emplacement, d'autres personnes se sont intéressées à cet endroit.
Mais qui auraient fait autre chose du coup. C'était pas elle voulait que la boutique soit reprise de préférence.
Elle voulait vendre son fonds.
D'accord.
Après, à tout moment, quelqu'un aurait pu racheter le fonds juste pour avoir le pas de porte. Mais pour continuer du dépôt-vente, il me semble que j'étais la seule sur le coup. À ce moment-là aussi se pose la question de savoir, est-ce que j'investis toute seule? Est-ce que je monte ce projet moi-même? Ou est-ce que je rentre en collaboration avec d'autres, une autre, deux autres personnes? Et en me posant vraiment bien, pour un premier projet, je me suis dit que je préférais être seule aux manettes, apprendre moi-même, quitte à me planter.
Tu sais très bien quelles sont tes compétences à toi. Tu sais pas avec qui tu t'engages, c'est vraiment. Ça. Et des fois, tu penses savoir.
Ouais.
Et la vérité est toute différente. Hein. Je connais pas mal d'expériences d'autres personnes autour de moi avec qui ça s'est pas bien passé, que ce soit un conjoint, un ami ou une collaboration professionnelle.
Ça devient encore plus difficile, je pense, à ce moment-là, que de juste gérer les tracas quotidiens.
Qui en fait autant? Il y en a toujours un qui fait moins que l'autre. Ouais. Qui met autant d'argent? Qui met machin
Puis une prise de décision qui devient...
Exactement, la prise. Oh là là. Ouais, ouais.
Puis moi, voilà, quand je suis aux manettes, c'est vrai que j'aime bien que ça soit fait comme j'ai envie.
Ouais, je te comprends tout à fait.
Donc, de venir partager ce rôle avec quelqu'un, je n'étais pas encore prête.
Donc, France Active, comment ça fonctionne? On prépare un dossier?
Je vais les voir une première fois. Toc, toc, toc. voilà ce que j'ai envie de faire. Voilà qui je suis, comment on fait. Donc, de là, ils m'ont donné un rendez-vous et m'ont demandé de remplir un dossier papier où il y avait déjà des questions guidées dessus. Et je me présente à ce fameux rendez-vous et déjà la première chose, c'est qu'ils regardent la viabilité du projet, quoi. Avant même de dire, OK, on va te faire passer devant un jury ou quoi que ce soit.
Pour avoir ce fameux prêt, on va dire, il faut quand même passer devant une commission de nombreux experts comptables, chefs d'entreprise, banques, ouais, qui font partie de cette association France Active.
Ils étaient 17 en face de moi à ce moment-là.
17,
17
Je ne sais plus combien ils étaient pour nous, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Suffisamment pour que ce soit très, très stressant.
Très, très stressant de venir avec son petit projet, proposer son idée, son concept.
Tu avais fait quoi, un diaporama?
Je crois que j'avais fait un diaporama,
ouais. Ouais.
Un diaporama, une présentation orale aussi, que j'avais bien, bien bossé toute seule dans mon coin. J'ai dû mettre un peu plus d'un an à construire mon projet, donc cette fameuse... réunion devant le membre du jury, c'était quand même vers la fin. Donc je savais où j'en étais.
C'était quand même bien avancé.
C'était bien avancé.
De toute façon, il faut, parce que si t'arrives et que t'es pas prêt...
Tout était ficelé. J'ai vu des rendez-vous avec des comptables, des banques. Je savais où je mettais les pieds, donc il n'y avait plus qu'à me vendre. Et normalement, c'est mon cœur de métier. donc je suis allée un petit peu naturellement, très stressée, mais naturellement. Et finalement, ça l'a fait. Mais ça l'a plus que fait. Le jury a été conquis par...
Vraiment, t'as senti un retour ultra positif.
Ils sont sortis de la salle, ils sont venus me parler à la fin. Waouh, bon, on vous donnera la réponse. Mais j'ai senti déjà qu'ils étaient emballés.
Il y avait un bon engouement.
Ouais, rien que par les questions qu'ils m'ont posées. Et autant sur le projet que sur la personne qui défendait, donc moi. J'ai eu le droit à... Je vais peut-être dire des bêtises... Voilà, une aide par rapport aux femmes sur le territoire breton qui entreprennent.
D'accord.
Un prêt d'honneur solidaire, que je n'ai pas déclenché par la suite parce que je n'en avais pas besoin, mais j'avais cette opportunité-là. Et surtout, le gros, gros point fort, c'est la garantie bancaire. Ce qui veut dire, en fait, que si jamais demain, mon entreprise fait faillite et qu'il me reste X d'argent à rembourser auprès de ma banque, France Active prend le relais et remboursera la moitié du prêt.
C'est quand même un point en moins sur les épaules, même pour toi, parce que tu te dis, si j'échoue, c'est triste déjà de base, mais si tu te retrouves en plus un peu dans le caca derrière, c'est quand même ça en moins, et c'est vrai que c'est... on peut espérer... En fait, tout ce que t'attends, c'est que t'aies pas besoin de ce truc-là, mais le fait qu'il soit là, c'est un grand ouf de soulagement.
Ouais. Et puis ça rassure énormément les banques.
C'est plus tard que t'as eu l'appel, t'avais rencontré plusieurs banques?
J'avais rencontré à ce moment-là déjà deux banques, je crois. Une troisième avec qui c'était sûr que je n'allais pas travailler.
D'accord.
Le feeling n'était pas du tout passé. Donc j'attendais un petit peu des retours déjà de ces premières banques. Et en fait, dans les membres du jury à la CCI, quand je me suis présentée, il y avait le Crédit Agricole qui était là.
D'accord.
Et qui m'ont appelé même pas une semaine après pour me dire qu'ils voulaient trop suivre mon projet, qu'ils avaient énormément aimé et qu'ils voulaient qu'on se rencontre.
Donc c'est eux qui sont venus vers toi, quoi.
C'est eux qui sont venus vers
moi.
C'est
fou. Et on est aussi avec le Crédit Agricole.
Non mais j'adore le Crédit Agricole.
Trop de points communs.
Franchement, ils me soutiennent très très bien, il y a une très très bonne écoute et je suis ravie de travailler avec eux.
Comment ça s'est déroulé cette transition ?
Du coup là ça s'est concrétisé étant donné que j'avais la banque qui me suivait. Donc c'était rendez-vous chez le notaire pour finaliser les dernières petites choses. Et là je me retrouve dans un domaine qui n'est pas du tout le mien. Donc négociation de l'acte du fonds et également du bail commercial. Donc j'ai fait appel à un ami de notre famille qui est venu lire un petit peu tout ça et qui a donné ses commentaires. Donc les parties en face s'opposent sur certaines choses, donc on renégocie, on continue à renégocier. Je devais faire normalement l'acquisition du fonds en octobre et il y avait plein de choses qui ne me correspondaient pas. Donc
octobre
2023.
D'accord.
J'avais monté ma société en août 2023.
Ok.
Donc ça correspondait bien. Et finalement, non, ça ne me correspond pas, on bloque tout, je ne me présente pas chez le notaire, ça ne sert à rien d'aller à ce fameux rendez-vous de signature, parce que dedans, il y a des choses que je ne veux pas signer.
D'accord, et tu n'avais pas peur que ça bloque, du coup ça bloquait les choses, mais que...
Ça bloquait tout, mais avec beaucoup d'audace et de
le culot, quoi.
Culot presque, j'ai pris sous conseil de cette personne qui était... qui était, elle, depuis des années dans le milieu et qui savait comment jouer face à ces profils-là. Il m'a dit non, on n'y va pas, c'est toi qui achètes, tu as ton mot à dire.
Et t'avais pas peur de voir les relations se dégrader avec les propriétaires ?
Ouais. Avec mes propriétaires, non, pas tant. Je sentais qu'ils voulaient juste qu'on tombe d'accord.
Que ce soit, voilà.
Que les choses soient dites.
C'est un win-win, comme on dit, quoi.
Comme on dit, un win-win. Et puis je m'étais dit, si ça doit gâcher des relations, en tout cas, c'est pas grave parce que c'est pas pour...
C'est pas pour leur faire plaisir.
C'est pas pour leur faire plaisir. C'est mon business et ça va être mon premier acte finalement en tant que patronne aujourd'hui de défendre un petit peu mes positions, quoi.
Donc ça a pris 4 à 5 mois.
Ça a pris 4 à 5 mois, oui.
C'est toujours long. Hein.
C'était long et je travaillais toujours avec la personne du coup à qui j'ai racheté le fonds à ce moment-là. Donc, il y a ce truc de... T'as ta casquette d'employé. Et moi, en tant qu'employé, je veux bien faire mon travail. Et en même temps, t'as ta casquette de futur patron et tu veux négocier les choses. Donc, c'est vrai que c'était une situation dans laquelle je me sentais...
Ouais, t'avais le cul entre deux chaises, quoi.
Je me sentais pas bien à ce moment-là.
Ok.
Moi, sincèrement, avec du recul, je me
sentais... T'avais peur pour la suite de voir ce que ça allait devenir ou tu savais qu'une fois que t'aurais le local, ça allait aller ?
Non, c'était pas par la suite. J'avais hâte.
Ouais, que.
Ouais.
Enfin, que la transition, quoi.
C'est bon.
Compliqué.
C'est bon. Je sais que c'est ça que je veux faire. On passe à autre chose.
Okay.
Et je commence enfin à mettre mes idées, mes choses en place et
dans
à relever mes manches, quoi.
Dans cette période-là, tu avais déjà des petites choses que tu voyais à droite à gauche.
Oui.
Tu te disais, tiens, je pourrais faire ça.
Dès le départ, dès que j'ai commencé le contrat et qu'on m'a dit que la boutique était en vente, je dessinais dans un cahier comment je verrais la structure, qu'est-ce que je pourrais faire.
Il faut le dire, pour les gens qui n'ont pas visité, moi je conseille vraiment de venir voir ta boutique parce qu'elle est sur plusieurs niveaux, elle est vraiment, il y a des ambiances différentes, vraiment, ça n'a rien de plat quoi.
C'est le lieu qui m'a plu,
ouais.
L'idée de racheter un fonds de commerce d'un dépôt vente, c'était pas vraiment ça finalement, mais c'était vraiment pour pouvoir avoir l'accès au bail commercial.
Ouais.
Et d'occuper ce lieu qui est atypique, en plein milieu de la rue Jean Jaurès, on s'y attend pas.
Ouais, c'est ce que j'aurais aimé, avoir un endroit plus atypique. Mais c'est vrai qu'après la restauration, tout ce qui est cuisine et tout ça, faut qu'il soit quand même un peu carré. Donc en soi, on n'a pas besoin d'énormément de place. Mmh. Après, plus c'est grand, ça demande de l'entretien. La restauration, ça demande quand même un certain soin en termes d'hygiène aussi. Et il faut être à cheval là-dessus. Donc le fait que ce soit bien carré, il y a un côté
ça
pratique.
Aide.
Mais
ouais.
J'avoue qu'un lieu, ton lieu est vraiment le mélange des matières...
Ouais.
Même les fenêtres à l'intérieur du local, moi je trouve ça génial, quoi.
On est dans une ancienne cour, en fait, finalement, qui a été recouverte d'un toit. Et il y a une arrière-cour avec un grand mur en pierre, une charpente en bois apparente. C'est ça qui donne tout le charme du bâtiment.
Ouais.
Je crois que je suis passée devant le notaire le 24 janvier.
Ok.
Et le 1er février...
Donc une semaine plus tard.
Ouais, c'est ça.
Tu deviens la nouvelle dirigeante officielle.
Je rentre avec les clés qui sont... les miennes.
Ça faisait combien de temps que Rêve de mère existait ?
Si ma mémoire est bonne, 28 ans.
28 ans.
28 ans, ouais.
C'est déjà pas mal.
Ouais. Ça a été le point pour lequel je me suis dit, ok, je monte pas une entreprise, mais je rachète. Enfin, je pars pas de zéro, mais je rachète un fonds. C'est que derrière, il y avait une clientèle, une histoire et voilà, un bagage.
Il y a déjà une base solide, une base théoriquement.
Un an plus tard, pour ainsi dire, jour pour jour, je change le nom du coup de la boutique.
C'était jour pour jour ?
Presque, presque.
C'était fait exprès ou c'était comme
non,
ça ?
Non, pas du tout. En fait, j'ai fait un voyage au Costa Rica et je suis revenue de ce voyage de 3 semaines plein d'envie, plein de motivation et je me suis dit, ok, je vais arrêter d'attendre d'avoir quelque chose de lisse et de parfait pour passer à l'action. Je vais du coup changer le nom. Et après, on fera la devanture. Et après, on fera les cartes de visite. Et après, on mettra encore plus toute cette DA en place. Mais je veux que ça soit chez moi.
Parce que là, on parle vraiment du coup de vraiment d'adaptation par rapport à ce que toi, tu as envie. C'est-à-dire que là, tu as donné un an pour faire un peu une transition avec le fait que tu es la nouvelle dirigeante et que tu vas apporter des nouvelles choses.
Tout à fait.
Donc, c'était un an réfléchi en disant, je laisse un an pour...
Je pouvais pas arriver avec mes gros sabots et directement changer le nom, changer l'ADA. Clairement, j'avais besoin de comprendre où je mettais les pieds et quelles allaient être mes priorités en fonction des différentes saisons. Je travaille avec des particuliers étant donné que c'est du dépôt-vente. Donc la relation n'est pas la même qu'avec des professionnels, ça demande plus de temps. Mmh. Savoir comment dans les semaines, voire dans les mois, j'allais gérer ces choses-là pour pouvoir par la suite venir créer cette nouvelle identité, ce nouveau nom, en le faisant de la bonne façon.
Et tu te souviens un peu de ce qu'on disait dans ton entourage sur le fait que tu allais reprendre cette boutique Tu te rappelles un peu des retours que tu avais?
Je me suis mis dans une bulle assez solitaire à ce moment-là.
Ouais.
J'ai coupé pas mal de liens que j'ai retrouvés par la suite. Hein. Donc j'ai pas...
Les gens ont compris, genre des amis que tu voyais moins du coup.
Ils savaient que là j'étais en process, que j'étais en train de grandir un petit peu sur quelque chose, de mettre quelque chose à maturité. Et voilà, donc les amis, j'avais pas trop d'écho, à part beaucoup de soutien. Et sinon, de la part de ma famille, ouais, voilà, beaucoup de soutien, beaucoup de « il faut le faire » et tu vas réussir, et dans tous les cas, même si on échoue, on réussit par la suite.
Oma, on peut dire qui est Oma?
Oma, c'est mon petit chat. Alors en fait, la particularité dans cette boutique, c'est qu'il y a mes deux chats, donc Oma et Goni, qui sont frères et qui sont trop mignons, qui travaillent avec nous au quotidien.
Ils travaillent,
ils sont dans la vitrine et ils font leur meilleure sieste. Quand le soleil tape, leur poil s'ouvre et c'est beaucoup trop mignon. Mais du coup, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs vendeurs, c'est les meilleurs...
Je pense que ça attire du monde, du coup.
Ouais. Ouais, y a des gens qui rentrent dans la boutique, clairement, et qui nous disent « On vient pas pour vous dire bonjour, on dit juste bonjour au chat. »
D'accord.
Bonjour
super,
quand même.
Merci, c'est gentil.
Donc même si c'est pas finalement des personnes qu'on attire pour vendre les produits, le but de ce lieu-là, c'est pas que de vendre, quoi. C'est aussi de créer un lieu où on s'y sent bien, où on peut venir...
Et puis c'est chez toi, quoi, clairement.
C'est chez moi, c'est chez mes chats.
Tu passes une partie de ta journée là.
Je passe toute ma vie là-bas. Je passe tout mon temps là-bas. Donc ouais, j'ai envie que les gens s'y sentent bien, qu'ils puissent venir observer une exposition qu'on aurait mis en place, venir juste nous visiter, parler avec nous, ronronner avec les chats. Voilà, que ça soit un lieu avant que ça soit juste une boutique commerciale. Oma, c'est parce que je trouvais que ça sonnait bien.
Ça sonnait mieux pour une boutique.
Il y a plein de gens qui disent que c'est parce que c'est mon préféré, mais...
Oh, je les aime tous les deux. Non.
Je les aime tous les deux, mais c'est vrai qu'Oma est très très mignon.
Ouais, c'est comme les parents avec les enfants, il y a toujours des préférés.
Non, si. Quand même pas.
Si c'était pas ton préféré, il n'aurait pas le nom de la boutique aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens un peu dans cette période le meilleur souvenir que tu aies eu?
Dans la période du
dans la période de l'installation.
De l'installation. Oh là là. Finalement, alors un souvenir là comme ça, il me vient pas. Mais d'être avec l'équipe avec qui je travaille au quotidien. On est soudés, on a une vision, je les écoute, ils m'écoutent et on avance vraiment main dans la main pour venir construire un projet qui nous plaît. Et je pense que c'est ça au final, mon ou mes meilleurs souvenirs, c'est les moments humains que je partage.
T'as trouvé des bonnes personnes sur qui tu peux avoir confiance?
Ouais.
C'est pas facile, vraiment. Vraiment c'est pas facile je pense.
Non, je travaille avec des gens qui sont super, qui ont des qualités humaines et professionnelles au top. Et je les remercie. Quoi.
C'est des personnes que tu as choisies ou c'était des personnes qui étaient déjà là avant?
c'est des personnes que j'ai choisies. Du coup, j'ai une personne en CDI qui est avec moi au quotidien, un homme. Et donc, il est venu se présenter pour une alternance quand c'était encore l'ancienne dirigeante qui avait la boutique. Et moi, je l'ai vu tout de suite. Il y a eu un feeling. Je me suis dit...
C'est lui.
Normalement, je reprends en octobre la boutique. J'ai pas envie qu'il me passe...
Sous le nez, quoi.
Donc, j'avais dit à ma responsable de l'époque, viens, on le prend. De toute façon, on en a besoin. On a besoin de quelqu'un en plus. On peut prendre lui, quoi. Bon, un homme dans un magasin d'événements, ah bon, oui, il faut. Et puis, donc, il a eu son contrat en alternance chez nous. Et après, en février, quand j'ai repris la boîte, il était là, il était dans l'équipe, il a fini son alternance. Et donc, en septembre 2024, il a signé son CDI.
Il y avait d'autres salariés, du coup, à l'époque ?
Il y avait une apprentie qui était là aussi. Et elle faisait un bac. Il y avait une autre employée qui était en arrêt maladie. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'avais un CDD. C'était pour remplacer ce contrat
D'accord.
maladie.
Et tu as dû faire le licenciement, du coup ?
Et j'ai dû faire le licenciement. 17 ans d'ancienneté. Oh. Mmh. Oui, oui.
C'est difficile.
Ça coûte bonbon.
Ah ouais.
Quand on commence, ouais. Bon, après, c'était prévu. Hein.
D'accord.
Mais, ouais.
Ça fait partie un peu des... Du coup, du moins bon souvenir ?
Ouais, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite.
Ok.
Je l'ai licencié en mars. Je pensais que j'allais avoir 6 mois, 1 an pour créer une trésorerie et pouvoir la licencier sans toucher finalement au capital de l'entreprise. Et...
Ça a fait du mal, quoi, quand même.
Ouais.
Là, tu me disais aussi que du coup, sur ce changement donc, de direction artistique, il y avait des gens qui ne comprenaient pas trop, des clients habitués d'avant,
oui.
qui ne comprennent pas que ça évolue,
oui.
que 28 ans plus tard...
On évolue, pas les choses pareilles. Mais même avant même de changer le nom et de changer un petit peu la DA, juste les premiers mois quand j'ai repris, il y avait des personnes qui passaient et je pense qu'il y avait l'habitude de voir les dames, elles disaient ça comme ça, elles sont pas là les dames.
Ouais.
Non, les dames, elles sont plus là, maintenant c'est nous. Et du coup, on a essayé d'épurer un peu plus nos rayons, de faire des choses beaucoup moins chargées.
Ouais.
Et ça passait
pour mieux mettre en valeur aussi certains articles. Hein.
C'est mon goût, c'est en tout cas à mon goût, c'est ce que je voulais faire. Et ouais, il y a des clientes à qui ça n'a pas plu de venir changer, tout simplement. Je ne pense pas que c'est la façon de faire les choses. Je pense que c'est juste le changement, ça les a perturbées. Et donc, on ne les voit plus. Elles ne sont pas repassées, mais bon.
Et le lieu, tu n'as pas eu de mauvaise surprise ?
Oula.
Beaucoup ?
Ouais. Mais je pense que je le... Enfin, ce n'est même pas que je pense, c'est que je savais que je mettais les pieds. Je mettais un peu les pieds dans un gruyère, quoi.
Tu en avais un peu discuté avec la propriétaire ou...
Ils sont au courant de ce qui se passe. Après, moi, mes propriétaires, ils ont tout l'immeuble plus d'autres immeubles. C'est une indivision. Donc, c'est pas comme s'ils avaient le focus que sur ce bâtiment-là ou que sur ce local-là et qu'ils connaissaient tout en détail. Pour le coup, ça faisait 18 ans que le local était occupé par Rêve de Mer. Même si Rêve de Mer existait depuis 28 ans, il avait déménagé.
Ah, d'accord.
Donc voilà. Elle occupait quand même depuis 18 ans ce lieu-là. Et donc, c'est plutôt l'ancienne propriétaire qui connaissaient les défauts et les qualités de l'endroit. Mes propriétaires, pour le coup, eux, ils gèrent ça un petit peu comme une entreprise, donc ne connaissaient pas toutes les failles, quoi. Mais oui, il pleut dans la boutique et c'est toujours le cas.
Et t'as pas peur que ça abîme ta matière première, en fait ?
Alors,
c'est un peu le risque.
Là où ça pleut, ça ne vient pas toucher directement nos produits. Mais les assurances sont sur le coup et mes propriétaires sont quand même super cool et font le nécessaire à chaque fois que je détecte un petit problème pour venir
reboucher.
Le réparer, reboucher, réparer. Ça demande du temps, ça demande de l'argent.
C'est sur le même immeuble où il y a l'échafaudage du coup ?
Oui, tout à fait.
Donc c'est des réparations sur tout l'immeuble du coup qu'ils font aussi
En fait, l'échafaudage, ils sont en train de refaire le toit de l'immeuble. Donc ils ne refont pas directement, moi, mon rez-de-chaussée. Donc, je ne vais pas être impactée par ces travaux-là.
D'accord. Ce n'est en termes de visuel.
De visuel, pour le moment.
Voilà, c'est vrai qu'on a un peu de mal à te voir, quoi.
Il y a un gros échafaudage. Ouais. J'ai tiré les LED Rêve de Mer aussi. Donc là, il n'y a plus du tout de nom dessus, la devanture. Il n'y a plus que mes petits chats en vitrine pour venir faire joli.
Ouais, elle ne tenait plus très bien non plus les LED, je crois. Elles étaient un peu passées. Hein,
ouais, elles passaient. 18 ans en même temps.
Tu dirais que ton entreprise occupe combien de pourcentage de tes capacités mentales ?
Waouh !
Voilà une vaste question métaphysique.
2000% ?
2000% voilà.
J'ai l'impression que je passe mon temps à y penser. En tout cas, la première année, c'était clairement le cas. L'année avant de racheter le fonds, c'était sûrement 2000%. L'année du rachat, donc, où j'ai commencé à exercer, je devais être à 100% de mon temps, même dans mes rêves, en train d'y penser. Et ma résolution, du coup, de la fin de l'année 2024, début de l'année 2025, c'était « Ok, aujourd'hui, ça ne me paye pas. Ce n'est pas quelque chose qui fait que ça me rapporte de l'argent financièrement. Par contre, je veux que ça colle avec mon idée première, c'est de pouvoir organiser mon temps, et du coup, de ne pas y penser tout le temps et de pouvoir prendre plaisir à passer des week-ends, à finir peut-être plus tôt le soir aussi. Mmh. » Donc, autour de ce travail-là, de lâcher prise un petit peu, je dirais que ça prend... Il y a des moments donnés où ça prend 90% du temps et par moments 70% et par moments où j'arrive vraiment à lâcher prise et donc 40%.
Et ne pas y penser, quoi.
Ouais.
Après, il suffit d'avoir un petit détail et bam, tu te dis « Oh, ah, est-ce que j'ai vraiment... » Oula, ça, toujours oui. Des trucs, voilà. Des petites piques de rappel.
Je crois que c'est le plaisir aussi de...
Oui, bah d'avoir sa boîte.
D'avoir sa boîte.
Et d'avoir la liberté aussi, justement, de choisir.
Mais je crois que quand on est entrepreneur, on aime souffrir.
Clairement. Ah oui, c'est une belle vision, belle vision des choses peut-être. Est-ce que tu penses que la mairie pourrait aider un peu le commerce dans le centre-ville et sur Brest en général?
Ouais, je pense plus dans l'écoute déjà peut-être et dans la... Alors dans l'écoute, non, je vais pas être mauvaise langue parce que mine de rien, ils nous écoutent. Mais entre écouter et faciliter la mise en place de certaines actions, il y a quand même un monde et je trouve qu'ils nous brident peut-être un petit peu. Il y a des choses que je peux comprendre hein, sur le choix des couleurs, des devantures. Voilà.
On est rue Jean Jaurès quand même. Hein. On n'est pas dans le centre-ville historique de Quimper. Quoi.
C'est sûr. Non, c'est sûr.
Je connais et j'ai beaucoup de clients de vacanciers, uh-huh. Vu que j'ai un restaurant et que j'ai des touristes. J'en ai pas un seul qui me dit que c'est une très belle rue. Quoi. Donc, le pire, c'est qu'il y a une jolie vue en plus quand on regarde sur la descente.
J'adore.
On voit
le phare.
Mais les façades en général, c'est pas.
Ça,
même en termes de végétalisation, on me fait beaucoup de retours sur le fait que c'est une rue très minérale.
Oui.
Et que c'est pas. Même la rue de Siam, elle est un peu plus large.
Oui.
Il y a au moins quelques arbres. Et là, avec le tram, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça manque sur la hauteur, même un peu de végétaux. Ce serait peut-être pas mal. Quoi.
J'ai un petit côté marginal qui a envie de venir mettre des arbres et des fleurs partout et de faire comme j'ai envie. Et... Voilà, mais après, je pense que c'est le fait d'avoir voyagé aussi. J'ai vu des rues qui étaient. Qui avaient pris place. Par l'art, où on vient vraiment avoir
plus
ce
biscornu
côté
et
plus
ouais.
Biscornu. Et en fait, moi, j'adore. Je trouve que ça me fait rappeler la ville dans laquelle j'étais en vacances ou que j'ai visité. Je trouve qu'il manque de ça à Brest, cette liberté de venir créer, finalement. C'est très
ça
contrôlé.
Ça reste assez gris, en fait. Hein.
C'est gris, même s'il y a de l'évolution. Ça reste très gris, ça reste très contrôlé. Et
ça n'appartient pas forcément à ses habitants. Quoi.
Ça n'appartient pas à ses habitants.
Et ses commerçants, parce qu'un centre-ville sans commerçants.
Ouais. Et je pense que Saint-Martin, c'est vraiment... l'endroit où il faut valoriser ouais. Ça. Encore qu'on contrôle peut-être Siam, je comprends, mais mon envie serait de venir...
C'est vrai que Saint-Martin, on est un peu caché derrière la mairie quand même. Quoi, donc,
laissons Saint-Martin vivre à fond, être populaire.
Ouais.
Il y a Guérin, il y a plein de choses qui s'y passent. Il y a un centre d'art, je ne sais pas si c'est un centre d'art, mais
passerelle.
La piscine.
Il y a
la passerelle, il y a la piscine. Voilà, je pense qu'il faut valoriser ça et mettre encore plus en avant... une certaine liberté de créer, ouais.
Parce qu'en plus, du coup, toi, ta clientèle, elle vient, tu sais si elle vient de loin ou elle est vraiment très centrée centre-Brest, Saint-Martin?
En ce moment, elle est très centrée Brest, étant donné qu'avec les travaux du tram...
Il faut savoir que t'es là pour venir te voir, quoi.
En plus, ouais. Et les clients potentiels ont du mal à venir à Brest. En ce moment, c'est un ressenti de tous les commerçants, finalement, du centre, hein. C'est dur de venir à Brest, en centre-ville de Brest. On va plutôt valoriser les périphéries, du coup, les grosses zones, quand on vient
d'Ipava,
de Plouzané ou même de plus loin, s'insérer dans le centre-ville. Tous les jours, ça change avec les travaux. Donc, c'est comme ça. On prend notre mal en patience. Mais c'est vrai que j'ai hâte que ça soit fini et de pouvoir voir un petit peu plus de familles qui viennent nous rendre visite le week-end et autres, qui viennent découvrir la boutique. Et d'avoir les retours de ça.
C'est moi le patron !
Et avec les maris souvent qui viennent accompagner les femmes. Alors nous, dans notre boutique, il y a plein de sièges un petit peu partout où on peut s'asseoir. C'est vraiment le but de venir un petit peu chiller. Et du coup, les chats passent leur temps à venir faire les petites patounes comme ça sur les messieurs. C'est très attendrissant du coup de voir monsieur patienter sagement avec le chat sur ses genoux pendant que sa femme essaye tout le magasin.
En fait, tu vois, on parlait de de la rue de Siam, là, tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne verrais pas, par exemple, rue de Siam.
Une boutique à chats.
Voilà, une boutique avec des chats. Mais même, il n'y a pas beaucoup de commerçants indépendants non plus à rue de Siam, tu vois. Mm-hmm. C'est vrai que c'est quelque chose de très cadré.
Très cadré.
Et alors que bah, ici, que ce soit chez toi ou même au studio, mm-hmm. bah, on retrouve aussi Petit Lix au studio, tu vois.
C'est
donc il y a quand même quelque chose dans cette rue Jean Jaurès, dans cette partie de la rue Jean Jaurès, qui est différent.
Avec la friperie La Bonne Aventure aussi, à l'étage, le monsieur, il a son chien qui est très mignon et qui passe, il est adorable, il est en boule sur son gros canapé là comme ça.
Donc là, tu as plein d'idées pour développer au-delà de la vente en seconde main.
Mm-hmm.
Tu as d'autres idées pour faire de ton lieu un lieu vraiment vivant
pour les années qui viennent. On a mis en place un salon de thé. On va travailler avec Bozek, du coup, la brûlerie du Léon, histoire d'aller chercher des commerçants qui sont près de chez nous. Ce salon de thé, c'est vraiment le moyen d'avoir un lieu de rencontre un petit peu sociale aussi, où on peut venir créer des événements, que ça soit un groupe, où on puisse venir travailler aussi individuellement avec son ordinateur, une bonne connexion Wi-Fi. On a envie de proposer du café à partir de 1 euro, histoire de pouvoir être abordable et de pouvoir passer toute une après-midi avec des recharges de café pour bien bien travailler. Voilà. On a également l'envie d'intégrer une tatoueuse qui s'appelle Corbel, du coup, à notre projet. Elle vient faire du NPOC. Et elle travaillerait ponctuellement, du coup, avec nous à l'étage pour venir pratiquer sa discipline. Également, la possibilité de faire des expositions. Et plein d'autres petits projets qui arriveront avant de les dévoiler. Il faut que je sois sûre de pouvoir les réaliser.
Oui, tout à fait. Ne nous avançons pas trop vite.
Je reviendrai pour un épisode. Voilà.
Et t'as pas peur en fait que de vouloir développer, de faire des choses complètement différentes, tu perdes un peu l'essentiel de ta boutique où tu sens que petit à petit, progressivement, tu vas arriver vers ton objectif de ce que tu veux faire.
Oui, c'est ça, c'est petit à petit. Moi, l'objectif, c'est pas de venir avoir un dépôt-vente qui fait que du dépôt-vente, c'est vraiment d'avoir un endroit, avoir un lieu dans lequel, si j'y habitais pas, j'aimerais me rendre tous les jours. Pour m'y sentir bien, pour venir parler avec des gens, pour venir apprendre quelque chose, pour venir un lieu, en fait, finalement, vivant.
Vivant.
Ouais, plus qu'un dépôt-vente. Je veux continuer à faire du dépôt-vente parce que j'aime cette idée de pouvoir consommer, de s'habiller en seconde main et de également rémunérer les personnes qui travaillent avec moi, du coup, les voisins qui viennent faire leur petit dépôt, ils récupèrent des petits sous. C'est un vintage physique, finalement. Mais j'aimerais à long terme que ça ne soit pas 100% des revenus du lieu, quoi.
Et maintenant, la journée de travail est terminée. Et qu'est-ce que tu écoutes lorsque la journée est terminée? Café Con Ron de Bad Bunny.
Évidemment.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón. En la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Que lo bailen en Lloren, que lo bailen en Canales. Hoy voy pa' la carretera con todos mis anormales.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Hoy yo no quiero.
Yo no sé ni cómo yo llegué a casa anoche. Clase lo que era. Y hoy me están tirando de nuevo para bajar para allá, pero yo creo que hoy sí que ha hecho pichadera, que no me esperen.
El humo empañó el camino y no pude recordar el camino pa' mi casa. Hoy me vuelves a invitar.
Yo me iba a quedar tranquilo, pero si quieres vacilar, sube tú pa' la montaña, porque hoy yo me quedo acá.
Ven subiendo, que no le vamos a bajar. Sube tú pa' la montaña, hoy yo me quedo acá. Ven subiendo, que no le vamos a bajar.
decir algo para que sepa. En el monte hoy se rompe, desde que sale el sol hasta que se esconde.
En el monte hoy se rompe,
si ando como agotando humo, dale, ponle.
En el monte hoy se rompe,
suban pa' acá pa' que sientan el torque.
En el monte hoy se rompe,
me voy a dar otra en lo que los muchachos hacen el corte.
Et pour terminer, je te propose de te poser quelques petites questions en vrac. Okay. De 1 à 10, en quoi être patron est compatible avec une vie privée ?
Waouh ! De 1 à 10 ?
En gros, si tu as... pas forcément des enfants, mais globalement, ta vie privée, c'est-à-dire tes amis, ta famille, en quoi est-ce que... Je vais peut-être réexpliquer un peu plus simplement. 1, pas du tout compatible avec une vie privée. 10, complètement compatible avec une vie privée.
Ok. Écoute, pour le moment, vu que je pense que c'est mes débuts, on va être sur un 5. Je vais donner une moyenne.
T'es gentil.
Ouais. Non, j'essaye vraiment. J'essaye. Pour moi, c'est important de réussir à être autant dans ma vie privée que dans ma vie pro. Je pense que c'est le meilleur moyen d'être bon à long terme. J'ai pas envie de m'essouffler à consacrer 100% de mon temps à mon entreprise. Je veux pouvoir aller chercher des inspirations ailleurs et revenir avec de l'énergie, un nouveau souffle à chaque fois, une nouvelle envie de continuer à créer au sein de ce lieu.
Et t'as pas ce sentiment que quand tu donnes beaucoup trop de temps à ton entreprise, tu sens que t'as un peu ta famille qui pourrait demander un peu plus ou tes amis, et à l'inverse, quand tu as l'impression de partir un peu loin de ton entreprise, tu te dis que tu vas perdre énormément, et ouais, même en termes de clientèle et tout
ouais,
ça.
Oui, si, complètement. Alors, au niveau de la famille, quand je passe beaucoup de temps à l'entreprise, au niveau de famille et amis qui me le font ressentir ou que j'oublie des moments, ça encore, ça va. Bizarrement, ça va. Mais dans l'autre sens, quand je passe beaucoup de temps en famille, en voyage ou à droite, à gauche, je culpabilise, quoi.
Ouais.
Je culpabilise, je me dis, mais non, mais ça, je pourrais être là, je pourrais faire avancer ceci, cela. Et je pense que c'est ce que j'ai beaucoup trop fait l'année passée. Et je me suis carrément épuisée.
Ouais, c'est fatigant.
C'est fatigant. Donc là, pour ma deuxième année, je me suis dit, vraiment, c'est mon maître mot. J'apprends à jauger.
Il faut trouver un équilibre parce que j'ai vraiment ce sentiment que si tu commences vraiment à abandonner, pas abandonner, mais vraiment à lâcher du lest, en fait, ça peut très vite partir en vrille. Hein. Tu peux très vite perdre beaucoup, j'ai l'impression.
Ouais. Ouais. C'est une constance, en fait, finalement, et un juste équilibre des choses à trouver.
C'est ça, tout à fait. Dans la vie, qu'est-ce que tu n'aimes pas ?
Waouh ! Il y a plein de choses que je n'aime pas. Hein.
C'est vrai ?
Je suis un peu une pestouille railleuse. Oui, j'aime pas les gens méchants. Vraiment, c'est quelque chose qui mérite au plus haut point.
T'es une pestouille et du coup, tu fais la...
Du coup, je fais la
Méchante non. En disant que tu n'aimes pas les gens méchants.
Ouais, mais non, je fais pas la méchante. C'est pas je fais la méchante, mais... Non, j'aime pas les lits inconfortables. J'aime pas les plaides qui grattent.
Ah là là, quel enfer.
Quel enfer. Alors, pour revenir un petit peu sur le concept de la boutique, j'aime pas les rayons mal rangés. J'aime pas les vêtements sales. J'aime pas les endroits qui puent.
Voilà. C'est vrai que si tu prends un vêtement sale, il y a peu de chances que tu le vendes aussi. Donc
Bah ouais, c'est vrai que je suis assez exigeante là-dessus et sur la qualité des produits qu'on vient présenter. J'aime quand c'est d'aspect neuf. Et puis même pour avoir une boutique de seconde main, on a peut-être tendance à se dire « Ouais, ça va être une friperie, il y en aura partout. » Mais pour le coup, moi, je n'étais pas une chineuse du tout et je n'étais pas une consommatrice avant d'y travailler de cette mode alternative. C'est vraiment en venant travailler là-dedans que je m'y suis mise. Et du coup, j'ai un peu rappelé quand même par ces vieux démons de me dire « Ok, la présentation, je veux que ça soit nickel et qu'on se sente comme dans une boutique. »
Moi, tu vois, je suis très mauvais pour chercher.
Ok.
Donc, je suis tout à fait le genre de client qui abandonne très vite, qui passe devant le rayon, qui ne cherchera pas.
Donc, voilà. Moi, je le travaille en ce moment.
J'aime les coups de cœur.
J'aime énormément les coups de cœur. Et ça fait dépenser beaucoup d'argent, les coups de cœur.
Ouais, c'est dangereux. nous, on avait vu les... Quand on était venu du coup dans la boutique, on avait vu les docs et il y avait mon petit frère qui les avait pris derrière.
Ah oui, c'est vrai, il était revenu.
Tu savais pas que c'était lui et tu lui avais quand même fait un prix.
Ah oui.
Donc t'es quand même trop sympa comme meuf, tu vois.
Merci.
Voilà. Quel serait le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un pour se lancer ?
Bah de se lancer tout simplement, de faire, de bien réfléchir peut-être pas, mais en tout cas de peser le pour le contre. Et si on se sent vraiment comme une envie vitale, il faut le faire, quoi. Il faut essayer. Et dans tous les cas, même en ratant, on ne rate pas vraiment.
On ne rate pas vraiment. C'est vraiment la pire phrase que j'ai entendue de ma vie.
Mais je crois que c'est celle que j'ai le plus entendue, mais elle est vraiment réelle, quoi. C'est à partir du moment où on essaye, et même si tu viens échouer par la suite, tu apprendras toujours et puis tu réessayeras d'une autre manière ou pas. Dans tous les cas, ça t'apprendra quelque chose.
Et l'erreur à éviter, du coup
Peut-être de se précipiter. Ça ne matche pas trop avec ce que je viens de dire avant, mais moi, pour ma personnalité, du moins, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à bien analyser, à prendre le temps de tout observer. Y a des erreurs, du moins, qu'on peut éviter quand on est préparé à l'éventualité d'échouer. Je ne sais pas si c'est très, très clair.
Plus ou moins.
Plus ou moins.
Ce que tu recommencerais en mieux
La posture que j'ai eue face aux personnes qui étaient plus adultes, plus âgées que moi, qui s'y connaissaient plus dans ce milieu-là, je le ferais avec plus d'aplomb maintenant, plus de confiance, et je pense que j'y gagnerais plus.
Dernière petite question. Est-ce que tu as un talent caché ?
La chanson.
C'est
vrai. On ne croirait pas, mais si, si. Mes amis disent que je chante mal, mais moi je sais que j'ai une belle voix.
C'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce que tu chantes du coup ?
De tout. Hein.
Ah ouais ?
La chanson française.
T'es bonne au karaoké ?
J'adore le karaoké. Moi je trouve que j'ai une très très belle voix et que je chante très très bien.
J'ai fait deux karaokés ce week-end, donc j'adore le karaoké aussi.
J'adore le karaoké.
Voilà. Mais j'aime pas quand c'est trop répétitif et qu'on écoute toujours la même chose.
Céline Dion.
J'aime bien.
Ouais.
Tom Odell.
Ouais.
Another Love.
Oh là là.
Voilà.
Ouais.
Et bien sur ce, merci d'avoir participé à mon premier épisode.
Avec
Ça
grand
m'a
plaisir.
Fait vraiment plaisir de te recevoir. J'espère que tu as passé un bon moment.
C'était trop bien.
J'espère qu'on a réussi à parler un peu de tout et à faire un peu le tour de ton entreprise et de ton projet.
Ouais.
On peut te souhaiter le meilleur par la suite.
Merci.
Et j'ai hâte de voir Oma dans sa version la plus aboutie.
Oui.
Surtout, n'hésitez pas à venir te voir. Tu peux rappeler l'adresse de ton commerce ?
C'est 116 rue Jean Jaurès.
Voilà. Donc, même s'il y a un échafaudage devant,
oui.
C'est ouvert.
C'est ouvert, tout à fait.
Alors, merci Charlène. Et merci à vous d'avoir écouté. Vous pouvez aussi retrouver l'épisode en podcast, évidemment. Et on se retrouve dans 2 semaines où je recevrai Cassandre, qui a créé Goulu. Merci à vous.
C'est qui le patron ?
C'est moi.